Il s'appelle Luc Laliberté. Il est enseignant en histoire, chroniqueur politique à LCN, à TVA, Journal de Québec, name it. Il est un expert en politique américaine. Bon matin, Luc.
Oui, bon matin.
Je suis tellement content de te parler, ça n'a pas de sens.
Ben écoute, c'est réciproque. Chaque fois que vous m'invitez, ben écoute, je trouve un trou dans l'horaire. C'est très chargé aujourd'hui.
Et c'est sûr.
Il n'était pas question que je rate ce rendez-vous-là avec l'équipe.
Est-ce que c'est ton Super Bowl aujourd'hui?
Ce serait mon Super Bowl si c'était plus festif. Je vais...
Okay. Ouais.
Parce que le Super Bowl, pour moi, c'est le football, mais c'est tout le divertissement, entre guillemets, le show autour. Et là, je peux me permettre d'être festif. Puis souvent, peu importe qui gagne ou je perds, si j'ai un bon match, ça me va. Ce soir, moins festif un petit peu.
Ouais, c'est ça. En fait, là, voici le plan, puis c'est pour ça qu'on veut te parler ce matin.
Oui.
Notre plan, c'est de dire à quelqu'un qui écoute la radio actuellement, qui ne s'y connaît pas en politique américaine ben, mais qui se dit, ouais, il arrête pas de dire que c'est une soirée historique. Crème, qu'est-ce que ça me prendrait pour suivre ça à télé, puis être juste correct? Pas un spécialiste, mais juste correct. Donc, ce qu'on veut faire ensemble, là, c'est inciter les gens, si ça leur tente, à regarder cette soirée-là. Puis la première question, c'est, cette soirée-là, elle est vraiment historique pour vrai?
Elle est historique pour... ne serait-ce que... C'est très rare qu'on a deux candidats aussi diamétralement opposés, puis dont les plateformes, les programmes sont aussi diamétralement opposés. Donc, il y a beaucoup de polarisation. On est très divisé aux États-Unis, puis il reste peu de place entre les deux. Ce qu'on appelle des indécis, des indépendants, il n'y en avait pas beaucoup cette année. On se bat pour une poignée d'électeurs, du moins en théorie. C'est historique aussi parce que d'un côté, si Kamala Harris l'emporte, puis il y a des gens qui disent « Ah, mais vous revenez souvent avec la couleur de la peau ou avec le genre, le sexe de la personne. » Les États-Unis ont commencé à voter en 1789 et à part Barack Obama, il n'y a eu que des hommes blancs, puis des hommes blancs relativement âgés. Donc, est-ce que en 2024, les États-Unis sont capables de voter pour une femme et une femme issue des minorités, parce qu'elle a en plus un bagage culturel, Kamala Harris, qui nous rapproche d'un côté de la zone asiatique, puis de l'autre côté, ben c'est une noire américaine. Donc, elle pourrait, si elle gagne ce soir ou dans les prochains jours, vraiment entrer dans l'histoire. De l'autre côté, ben c'est pas tout à fait pour de bonnes raisons, mais c'est tout aussi historique. On oublie parfois, moi je suis étonné qu'on en parle à peu près plus dans la campagne, Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation contre sa victime. Après avoir été reconnu coupable, par deux fois on a même augmenté le montant qu'il doit verser à sa victime parce qu'il a traîné et sali son nom sur la place publique. Donc déjà ça, c'est quelque chose. Et il y a eu un procès très médiatisé dans lequel ben, il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Ce serait donc le premier reconnu coupable d'agression sexuelle et de fraude à entrer à la Maison-Blanche. Et il y a au moins trois autres procès qui l'attendent, même s'il rentre à la Maison-Blanche, à moins que des choses bougent après.
Ouais.
Mais donc, on a vraiment, il y a cette polarisation, c'est très clair. Il y a des gens qui ne veulent absolument rien savoir des démocrates et de Kamala Harris, tout comme on est aussi polarisé contre Donald Trump et les républicains. Donc, c'est vraiment fascinant ce qui va se jouer sous nos yeux parce que on a un pays qui est divisé. Ça arrive assez souvent dans l'histoire américaine, mais c'est un des moments de division les plus intenses. Puis là, ben c'est le prof d'histoire autant que le commentateur qui vous parle quand il dit ça.
Luc, j'ai une question. Moi, je t'écoute parler.
Oui.
Bon, les Américains ont deux choix. La première femme noire, première femme de l'histoire, tout simplement, présidente. Et un homme d'affaires aux histoires fling-flang. OK? Pourquoi?
C'est bien.
Oui, mais pourquoi, malgré tout ce que tu viens d'énumérer, ce gars-là est né à nez et pourrait être le prochain président américain?
Ouais, pourquoi il séduit autant?
Oui.
Voilà, j'ai envie de te dire qu'il y a de très bonnes raisons pour ça et que si je vivais aux États-Unis, dans certains États, là, je vais faire la une avec ça, mais je serais peut-être tenté de voter républicain ou Donald Trump. Il représente plein de gens que le système a oubliés ou laissés de côté. Il y a d'excellentes raisons de critiquer le système aux États-Unis, le système politique, l'inaction des politiciens à Washington, le contrôle souvent de la classe politique par des intérêts financiers, par ceux qui ont énormément d'argent. Donc, ça se peut que j'ai envie, puis je m'excuse auprès de vos auditeurs auditrices, de faire un gigantesque « fuck you » au système, un doigt d'honneur, un bras d'honneur pour dire « je vais aller encourager Donald Trump ». Donc, il y a une colère qui est bien réelle et il y a personne.
Ça n'a pas coupé, là?
bout-là, je le comprends parfaitement. L'autre chose, la question de l'immigration. Les Américains ont peur des immigrants. Puis ça, c'est républicains et démocrates. On se sent débordé par ce phénomène-là. Puis tranquillement, regarde le discours au Canada pour au Québec. Ouais, là, on jase de plus en plus d'immigration. Et c'est pas être raciste. Voilà, et c'est pas être raciste que de discuter d'immigration. C'est ne serait-ce que de manière très terre-à-terre, pragmatique. Est-ce qu'on peut absorber autant d'immigrants? Est-ce qu'on a les infrastructures? On le voit, par exemple, pour ce qui est du logement, de l'habitation, etc. Puis parfois, ben, ce sont des gens qui, culturellement, sont très différents de nous. Il y a comme une réaction qui est profondément humaine, puis on l'a aux États-Unis. Et Donald Trump exploite ça. S'il gagne ce soir, c'est que les Américains sont convaincus, de par son ton, de par ses propos, que lui va être plus fort sur l'immigration que Kamala Harris ou que les démocrates. Okay. Donc, ça va jouer énormément. Et il y a un autre facteur, parce que ça occupait, quand je regardais la campagne, ça occupait à peu près la moitié de ses publicités, ce qu'on appelle la guerre culturelle aux États-Unis ou la cancel culture. Donc, c'est ceux qu'on appelle ici les woke. Là. On abuse un peu de l'étiquette. Là. Le prof revient en classe parfois, je fais ça avec mes étudiants. Je reviens parfois leur définir c'est quoi l'historique de ce mot-là, d'où c'est parti, puis ce que c'est censé représenter. Mais les républicains jouent ça comme un épouvantail dès qu'il y a une revendication qui leur semble progressiste. Et il y a honnêtement des revendications progressistes qui sont contre-productives. Donc, il y a des démocrates qui disent, c'est progressiste, calmez-vous ou lâchez le morceau. Les républicains vont exploiter tout ça. Donc, il y a des raisons de voter contre Kamala Harris et contre les démocrates. Et on trouve encore aujourd'hui que c'est Donald Trump qui est le mieux placé pour faire ça parce qu'il donne l'impression de se foutre de tout, des conventions. Donc, c'est rapidement, là, puis j'ai déjà peut-être étiré un peu trop.
Non, mais non.
Rapidement, c'est pour ça que dans certains États, peut-être que je serais tenté d'enregistrer un vote pour Donald Trump, même si je suis parfaitement conscient que ce qu'il dit parfois, ça n'a juste pas de bon sens, c'est inacceptable. Mais je pense que lui est capable de faire ce qu'il dit, contrairement aux démocrates que j'aime pas ou que je déteste dans certains cas.
Luc Laliberté est enseignant en histoire, chroniqueur politique et expert en politique américaine. Gabin, je te fais une proposition, OK?
Oui.
Je vais jouer Co Wetzel, qui est une toune full appréciée sur notre antenne. Puis après, j'aimerais t'entendre sur... les Américains ne votent pas uniquement pour Kamala ou Donald. Les Américains vont voter aussi pour plein d'autres affaires. Il y a des questions référendaires et j'aimerais ça faire le tour de ces questions-là. Puis, y a-tu des trucs à surveiller en particulier?
Voilà, et revenir sur ce soir, si je suis devant mon écran, je surveille pas tout. Il y a des choses en particulier, donc je suis bien d'accord. On écoute ça, puis on revient ensemble.
Ah, j'aime ça. Hey, Gav, pendant que t'es là, Luc, sais-tu quoi, tu vas faire ça comme un kingpin. Tu vas me présenter à toi. Ben oui, il a jamais fait ça. Ben oui. OK, écoute ça. Le titre de la toune, là, c'est I Road, puis l'artiste, c'est Co. K-O-E Wetzel. Fait que c'est quand tu le sens, moi, je suis prêt.
Alors, ce matin, en direct de Dallaire le matin, une chanson qui plaît à l'auditoire et qui risque de plaire grandement aux chroniqueurs qu'on a invités ce matin. High Road pour tout le monde.
Yeah! Wow! C'est incroyable!
OK. Dans Dallaire le matin, 91.9 Week-end Radio, on est en onde avec Luc Laliberté, qui est enseignant en histoire, chroniqueur politique LCN, TVA, Journal de Québec, expert en politique américaine. Le but, c'est de vous inviter, si ça vous tente, à regarder la soirée historique ce soir, puis à être capable de suivre un peu. Luc, j'aurais tendance à te lancer sur, mettons que je veux pas me coucher trop tard à soir, là. Ouais. Qu'est-ce que je regarde sur la map des États-Unis? C'est quoi que je surveille?
Écoute, il y a 7 États qu'on appelle les États pivots ou des swing states. Aux États-Unis, on vote jamais. C'est pas le candidat ou la candidate qui a le plus de votes au total des États-Unis. Ça dépend quel État on gagne et ce que pèse cet État dans le calcul des résultats. On fait ça simple. Donc, vous surveillez pas la Californie, ça va voter démocrate. Vous surveillez pas New York, ça va voter démocrate. Donc, il y a le centre du pays, ça va être rouge, républicain. Surveiller, il y a deux ou trois États que je surveillerai dès 19h ce soir. La Géorgie, la Caroline du Nord, puis ensuite la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Les bureaux de scrutin devraient fermer à 19h ou à 20h. Si jamais il y avait une petite vague ou une tendance forte pour un candidat ou pour l'autre, on le saurait là. Si, par exemple, en Géorgie et en Caroline du Nord, on nous dit déjà là, entre 7h et 10h que Kamala Harris semble en avant, dites-vous que Kamala Harris va devenir la première femme présidente des États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un mouvement que les sondages n'ont pas perçu dans l'ensemble, Mais s'il y a une légère tendance aujourd'hui, là, au moment où on vote, c'est en faveur de Kamala Harris. Il y a une plus grande mobilisation, puis il y a une très forte mobilisation des femmes qui votent plus que les hommes. Et les femmes votent plus Kamala Harris par 16% à peu près d'écart. Donc, si ça va bien en Géorgie, dès 19h ou 20h, et en Caroline du Nord, c'est des États qui, normalement, devraient voter républicains, mais qui, là, sont très serrés. S'ils penchent pour Kamala Harris, ça va très, très, très bien. Le scénario cauchemardesque, c'est si jamais, dans les États que j'ai nommés, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie, c'est très serré, il va falloir attendre le Nevada et l'Arizona, qui sont les deux autres États pivots. Et là, ça peut être des jours. Donc, on espère, si on veut se coucher de bonne heure, ne serait-ce que ça. Si je veux rédiger mes textes pour le journal sans passer ma nuit debout, j'espère que ça va bien aller en journée.
Okay. Hey Luc, eux autres, ils vont voter. Ça va être d'un bord démocrate, d'un bord républicain. Ouais. Mais à ça, on ajoute des questions référendaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en particulier?
Écoute, c'est fascinant. Juste une parenthèse, là, nous, on vote ici, et c'est toujours simple, on vote tous de la même façon. On a un petit papier, des fois on chiale quand il y a plus que 4-5 candidats parce qu'on trouve ça long, mais on enregistre ça, on met ça dans la boîte, puis à la fin de la soirée, on a des résultats. Aux États-Unis, en Arizona, on bat un record pour un bulletin de vote. Il y a tellement de questions sur lesquelles on sollicite l'avis qu'on a testé le questionnaire électoral et ça a pris aux travailleurs d'élection 35 minutes pour voter. Donc, c'est le délire. Là. Donc, de quoi il est question sur ces bulletins de vote-là? La question des mariages de conjoints de même sexe, ça revient. Il y a des États qui veulent les interdire, d'autres États qui veulent s'assurer qu'on les maintienne ou qu'on les légalise. Donc, c'est encore une question en 2024, même si on avait l'impression que c'était réglé déjà sous Obama. Il y a la question de l'avortement. C'est un enjeu électoral. On va voter républicain ou démocrate selon notre préférence là-dessus. Si on est pro-choix, on vote démocrate. Si on est pro-vie ou contre l'avortement, on va voter républicain. Mais il y a aussi, depuis que la Cour suprême a dit, on enlève finalement la légalisation de l'avortement qui avait été votée en 1973. Nous, on est contre ça. Ça revient dans chaque État maintenant, cette question-là. Chaque État détermine si on le permet et comment on permet l'avortement, à quelles conditions. Donc ça va être dans beaucoup d'États une très, très grosse question à laquelle on va répondre. Dans plusieurs États, on peut aussi voter sur des questions d'immigration. Si je suis en Arizona, par exemple, est-ce que je veux que mon gouvernement, est-ce que je veux qu'on donne à nos élus et à notre gouvernement plus de pouvoir au-delà du gouvernement fédéral pour gérer les immigrants qui passent la frontière? Donc ça, ce sont des choses qui vont être très, très, très importantes. Dans certains cas, c'est la marijuana. De plus en plus, ça fait son chemin, c'est légalisé. Ce sont des choses qu'on risque de retrouver sur les bulletins de vote. Donc, on a un très, très grand nombre de questions auxquelles on va obtenir des réponses. Et une chose qu'il faudrait pas oublier, qui est majeure, c'est qu'aux États-Unis, chaque fois qu'on vote pour le président, on vote aussi pour les 435 représentants à Washington et pour le tiers du Sénat. Donc, imaginons une victoire de Donald Trump ce soir, puis imaginons que les démocrates gagnent la Chambre et le Sénat. Donald Trump devient président, mais il peut presque rien faire. Et ce serait la même chose pour Kamala Harris. Les sondages actuellement disent que les démocrates pourraient gagner la Chambre et les républicains gagner le Sénat. Pour passer une loi aux États-Unis, il faut que la Chambre, le Sénat et le président soient d'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de négociations en prévision, ou encore un président ou une présidente qui est assis là, qu'on va regarder, qu'on va écouter, mais qui ne pourra pas faire grand-chose.
Je comprends très, très bien. Je te laisse une minute, OK? Mais j'ai une dernière question. Si on ne veut pas être trop enligné par rapport à la couleur, où on regarde ça ce soir? Tu sais, parce qu'il y a des places qui sont plus démocrates, il y a des places qui sont plus républicains. Je regarde ça où, moi, pour être, mettons, fair?
C'est particulièrement délicat. Je vais y aller avec mes préférences parce que moi, je me promène d'une plateforme ou d'un... Si je veux avoir des résultats et strictement que des résultats, puis que ça ne me tente pas de m'asseoir devant la télé, je prends ça sur mon téléphone ou mon ordinateur, le site du New York Times et en temps réel nous fournit des informations qui sont excessivement précises sur une foule d'enjeux. À la télé, si on veut juste savoir sur la carte quels États ont le plus de chances de gagner, celui qui est le meilleur, à mon avis, pour gérer cette information-là aux États-Unis, il est sur CNN et il s'appelle John King. Maintenant, CNN a habituellement plus un penchant pour les démocrates. Ça ne veut pas dire qu'il dénature les faits, mais on va avoir plus de points de vue qui s'alignent sur les démocrates.
Je comprends.
LCN va faire en passant un très, très beau travail ce soir. J'ai le collègue Pierre-Olivier Zappa avec qui j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement. Et Pierre-Olivier est notre John King québécois.
C'est ou John beau, King ça. C'est
notre
beau.
Ou John King, notre Pierre-Olivier Zappa américain. Mais pour ce qui est de jouer avec les tableaux, d'analyser les résultats puis de bien voir les enjeux sur la carte, Pierre-Olivier ferait vraiment une job extraordinaire. Je pense qu'au Québec, c'est le meilleur pour ça.
OK. Écoute, merci pour ce temps précieux. Les commentaires, si ça peut te faire plaisir, là, il y a des gens qui écrivent, c'est un coup de cœur. À quelle heure qu'on peut prendre une bière avec ce gars-là? Le gars que vous venez d'entendre dans Dollar le matin, c'est Luc Laliberté. Il est enseignant en histoire, il est chroniqueur politique et surtout expert en politique américaine. Merci pour ton précieux temps. Puis on se fait une belle soirée électorale avec un bon popcorn à soir.
Écoute, je souhaite à tous vos auditeurs, auditrices et à toute l'équipe d'être sur un high road toute la journée.
Oh, oh trop fort pour la Ligue. Merci, Luc.
Salut, bye-bye.